L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 7h du matin. Nous sommes le samedi 15 octobre 1881. Dans la grande rue à Jemap, près de Mons, les commerçants s'activent. Oh, le samedi, c'est généralement une grosse journée. Le marchand de légumes étale ses caisses devant sa boutique. Le boucher découpe sa viande derrière sa vitrine. L'horloger vient de lever ses volets. 15 octobre 1881, 7h du matin, c'est l'heure H de mon histoire. Tiens, c'est bizarre, la fripière du numéro 33 n'est pas encore levée. Bon, d'habitude, Augustine Cantignot, veuve d'Elsard, est la première debout. Quand les autres lèvent les volets de leur échoppe, les portes de son magasin de vêtements sont déjà ouvertes. Une dame arrive. C'est Adélaïde, vendeuse au sein de la friperie. Pour la première fois en 10 ans de service, la porte est fermée. Il fait sombre. Il n'y a pas âme qui vive dans le magasin. Adélaïde appuie sur la clenche, la porte s'ouvre. Elle constate que la clé, qui est toujours dans la serrure à l'intérieur du magasin, se trouve au pied de la commode placée sur la gauche en entrant. C'est bizarre. Madame Delsart ? Madame Delsart, vous êtes là ? La jeune femme n'obtient aucune réponse. Elle se rend à la porte qui s'ouvre sur la cour. Madame Delsart ? Madame Delsart ? Non. Non, la veuve ne répond pas. D'habitude, la porte qui donne accès au grenier est fermée. Or là, elle est ouverte. Adélaïde s'approche. Madame Delsart, vous êtes là ? Aucun signe de vie. La vendeuse retourne dans la boutique. La présence d'un homme la surprend. Elle sursaute. L'homme s'excuse. Elle le reconnaît. Il était venu 2 jours plus tôt pour commander de la teinture. Elle lui remet sa commande. Il lui donne de la monnaie qu'elle glisse dans le comptoir, machinalement. Elle a la tête ailleurs. Elle est inquiète. Le jeune homme la salue et part à son travail. Il croise un autre homme qui entre dans la boutique. C'est l'horloger d'en face. « Bonjour, Adélaïde. Je viens saluer Madame Augustine. Elle n'est pas là ? » S'enquiert-il. « Non. Ben non, elle n'était pas là quand je suis arrivé ce matin. »« Non, elle est peut-être encore couchée, » suggère l'horloger. « Bien, je ne pense pas. La porte n'était pas fermée à clé, » répond Adélaïde, préoccupée. « Être couché à 7h, un samedi matin ? » Non. Non, ce n'était pas dans les habitudes d'Augustine. » L'horloger propose à Adélaïde de l'accompagner vers la chambre de la veuve. Compte tenu de son âge avancé, la vieille dame a peut-être eu un accident. Oh, certes, Augustine est encore en pleine forme, mais à son âge, les accidents de santé sont fréquents et parfois soudains. Seul, le bruit de leurs pas dans l'escalier en bois résonne dans la maison. Adélaïde et l'horloger se dirigent vers la chambre. La porte est ouverte comme d'habitude. L'horloger entre le premier. Augustine est allongée dans son lit. Il fait sombre. Il allume une bougie, fait quelques pas dans la chambre et s'arrête brusquement. Il blêmit. L'oreiller sur lequel repose la tête de la victime est imbibé de sang. Il allume une bougie et constate qu'il y a du sang partout. Une hache de boucher, ensanglantée, se trouve sur une chaise, placée près du lit. C'est un massacre. Un crime a été commis durant la nuit au numéro 33 de la Grand Rue. Adélaïde est figée. L'horloger l'invite à sortir de la chambre et à se rendre le plus vite possible chez le commissaire de police qui habite non loin de là. Le commissaire n'est pas chez lui. Mais en revenant sur ses pas, Adélaïde le croise. « Oh, venez vite, commissaire, la veuve d'Elsart est morte, elle a été assassinée !» Le commissaire et un autre policier se rendent à la grande rue où les curieux se bousculent déjà devant la maison. Certains sont même entrés. Le commissaire les fout dehors. Il ne veut pas que sa scène de crime soit polluée. Il veut préserver un maximum d'indices. La police communale bloque l'accès à la maison. On attend la venue des autorités judiciaires qui devraient arriver rapidement de Mons, la ville voisine. Les policiers se mettent au travail. Bon, ils n'ont aucun doute. L'octogénaire a été massacré à coups de hache de boucher. C'était un outil qu'utilisait jadis M. Delsart, qui était boucher. À sa mort, sa veuve avait accroché son outil de travail sur le mur en guise de souvenir. Pas d'arme de défense. Le parquet de Mons se transporte sur la scène de crime dans la journée. Le procureur, le juge d'instruction, un greffier et le médecin légiste sont devant le numéro 33 de la Grand-Rue à Jemappes. Il s'agit d'une petite maison bordée des deux côtés par une série d'habitations. C'est une bâtisse avec un seul étage. Les deux policiers ne sont pas parvenus à trouver le moindre indice sur la scène de crime, à part l'objet tranchant retrouvé sur une chaise près de la victime. Il y a certainement des empreintes digitales, mais cette technique d'enquête n'existe pas encore en Belgique. Il faudra attendre 1892 en Argentine et 1902 en France pour résoudre une enquête criminelle grâce aux traces laissées par les mains de l'auteur. Les magistrats, le médecin et le greffier entrent dans la chambre. Sur le lit, il y a une chemise de femme portant plusieurs taches de sang, ainsi qu'une mèche de cheveux. Le coussin sur lequel est placée la tête de la victime est souillé de sang. Il y a des éclaboussures d'hémoglobine sur les murs. Augustine est couchée dans son lit. La partie supérieure de sa tête et de sa figure dépasse un peu des draps du lit, qui la recouvrent tout entière. Ses yeux sont complètement fermés, sa bouche entrouverte. Elle a de nombreuses plaies sur la tête. Le médecin légiste estime que le décès est la conséquence d'une hémorragie cérébrale provenant de fractures du crâne faites avec un instrument tranchant. Après autopsie, il précise que la vieille dame est morte plus de 4 heures après avoir mangé son dernier repas. De la pomme de terre, du pain et du café sont retrouvés dans son estomac. Le repas des petites gens de l'époque. La veuve Delsart n'était pas une dame fortunée. Le juge d'instruction, Alphonse de Bucher, fait le tour de la maison. Il constate qu'il manque un carreau à la porte d'entrée. Il passe son bras par le carreau brisé et réussit à ouvrir la porte avec sa main. C'est un mode opératoire qui ne lui est pas étranger. L'arrondissement judiciaire est frappé par une épidémie de vol avec effraction. Dans plusieurs cas, le ou les auteurs ont brisé un carreau pour ouvrir une porte et entrer sans bruit. Ce bout de carreau manquant est retrouvé un peu plus loin, dans le ruisseau. Alphonse le place sur la vitre. Il s'y adapte parfaitement, même s'il manque un petit bout. Le juge interroge le couple qui habite la maison d'à côté. Rien vu, rien entendu. La voisine signale qu'il y a eu beaucoup de vent durant la nuit et que son mari s'est levé à plusieurs reprises. Celui-ci confirme. « Oh, je me suis levé 2 ou 3 fois durant la nuit, sans sortir de chez moi et sans aller voir à la fenêtre. Je n'ai rien entendu d'anormal, et je n'ai pas prêté attention aux gens qui passaient dans la rue, non. Je n'ai entendu aucun bruit dans la cour. » Le juge d'instruction demande à Adélaïde si elle a constaté la disparition d'argent ou d'objets de valeur. Pour l'argent, elle ne sait pas, car c'est la veuve qui gérait la caisse. Toutefois, elle a remarqué qu'une blouse bleue qu'Augustine avait achetée à un déserteur français n'est plus là. Ah, il lui faudra du temps pour faire un inventaire. Parce que du linge, il y en a dans toutes les pièces de la maison. Le juge d'instruction sort dans la cour. Il marche de long en large, les mains croisées dans le dos. Un déserteur français. Cet inconnu l'intéresse. Il traverse la rue et se rend à la maison communale où il compte interroger les voisins. Il s'installe dans le bureau du bourgmestre. Le greffier se place près de lui pour noter les déclarations des uns et des autres. Une ménagère de la rue raconte que la veuve Delsart accueillait parfois des malheureux quand son époux était encore de ce monde. Parmi ces marginaux, il y avait bien un homme qui disait avoir déserté l'armée française, oui. Il prétendait être originaire de Beauvais. La ménagère n'a jamais connu son nom, mais un détail lui revient. Cet homme avait déposé des vêtements en gage chez Augustine. Il s'agissait d'un gilet et d'un pantalon de velours brun à côtes. Il y avait aussi une paire de bottines accrochées. Augustine l'avait nourri et lui avait remis une somme de 6 francs. Il était revenu plus tard, déposer d'autres vêtements en gage. Le juge ordonne une fouille du magasin. Aucun de ses vêtements n'est retrouvé dans la boutique. Les chaussures non plus. Et si le déserteur était revenu chercher ses affaires? Le magistrat instructeur interroge la ménagère. « Mais si vous ne pouvez pas me donner son nom, vous pouvez au moins me le décrire. »« Oui, il n'était pas très grand, il avait le teint coloré, une figure allongée. »« Ah oui, une petite moustache blonde aussi, il avait une allure alerte. »« Il était même un peu nerveux quand je l'ai vu le 1er octobre, » détaille la femme. « Ah bon? Vous l'avez vu le 1er octobre, ici, à Jemappes ?»« Eh bien oui, oui, oui. Il m'a dit qu'il devait se rendre à Bruxelles, mais le lendemain je l'ai croisé à Mons. Il était ivre. » Il avait changé de vêtements. Il portait un complet gris et une casquette reliée au sommet par un bouton. Un Français déserteur. Bruxelles. On dirait que quelques pistes se dégagent, mais le suspect court toujours. Était-il seul? Trois ouvrières qui se rendaient au travail durant la nuit du crime déclarent qu'elles ont croisé deux individus à l'allure suspecte. L'un portait un sac et l'autre semblait faire le guet. Aucune ne connaît l'identité de ces deux hommes. Le lendemain, la presse annonce l'arrestation de deux suspects. Il n'en est rien. Il s'agit de deux hommes vivant un pâturage qui ont été arrêtés pour vagabondage et qui n'ont rien à voir avec ce crime. Le juge d'instruction ordonne à la police de rechercher un déserteur français qui se cache en Belgique. Vous l'avez compris, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. À l'époque, ils sont nombreux à ne pas vouloir aller se battre pour conquérir la Tunisie, où la France a prévu l'envoi d'un corps expéditionnaire de 25 000 soldats. Les policiers se renseignent. L'un des déserteurs pourrait correspondre à la description faite du suspect. Le 18 octobre, deux gendarmes se rendent au chemin de l'inquiétude à Mons pour interroger un déserteur de l'armée française. La perquisition ne donne rien. L'homme n'a aucune égratignure sur les mains. Non, ce n'est pas le voleur qui brise des carreaux pour entrer dans les habitations. Et il a un alibi en béton. On signale la présence de déserteurs français parmi les ouvriers qui participent aux travaux de l'arsenal de Coëm. Mais aucun de ces ouvriers ne correspond à la description de l'homme qui a mis des vêtements en gage chez la victime. Alors que le suspect court toujours, le 8 novembre 1881, le parquet de Mons est appelé à se rendre à Gottigny, près d'Ureux. Une veuve âgée de 76 ans, qui vivait seule, a été assassinée chez elle. Son cadavre est retrouvé dans le grenier, couché sur le dos. Son assassin lui a fracassé le crâne avec un objet contondant. Il l'a achevé en l'étouffant avec un linge. Dans la maison, les meubles ont été fouillés. Le 4 décembre 1881, c'est une octogénaire de Trivière qui est assassinée chez elle, frappée à la tête avec un objet contondant. Le 16 décembre 1881, c'est une cabaretière de Mons qui est retrouvée morte, le crâne défoncé. La presse s'inquiète. Quelqu'un s'en prend à des veuves pour les voler. Un homme est arrêté pour le crime de Gottigny. Il s'agit d'un ressortissant français qui a déserté l'armée. Son nom ? Pierre-Léon Charron. Il conteste le crime de Gottigny, mais il est confondu par sa casquette, oublié sur la scène de crime et par les traces de ses pas. Lui aussi avait bénéficié des bonnes grâces de la victime. Alphonse de Buchère, le juge d'instruction, le soupçonne d'être l'homme qu'il recherche pour les crimes de Jemappes. Il l'interroge, il insiste, il le pousse dans ses derniers retranchements. Pierre-Léon Charron résiste. Il prétend ne jamais être allé à Jemappes. Il est confronté à des citoyens du village et personne ne le reconnaît. Faute de preuves, il n'est pas inculpé pour le crime de Jemappes. Quant à Mons et Trivière, il était en prison quand les faits ont été commis. Mais alors, qui a assassiné Augustine Cantignot, la fripière de Jemappes.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'Augustine Cantignot, assassinée à coups de hache chez elle à Jemappes. L'auteur est un voleur entré dans sa maison par effraction. En novembre et en décembre 1881, trois autres veuves sont assassinées chez elles par un voleur à Gottigny, Mons et Trivière. L'œuvre d'un tueur en série ? Eh bien, peut-être bien. Écoutez bien ce qui va se passer, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous sommes à présent au début de l'année 1882. 19 janvier 1882, la police arrête un vagabond, un de plus dans la région. François Guillot, 32 ans, incarcéré à la prison de Mons. Ce natif de Nîmes-Mézières, près de Mons, est bien connu de la justice. Il a écopé d'une peine de 5 ans de réclusion criminelle prononcée le 20 novembre 1876 par la cour d'assises du Hainaut pour un vol avec escalade. Il avait dérobé une pendule. Une mise sous surveillance de police, pour une période de 10 ans, avait également été prononcée par la cour. Visiblement, elle n'a pas porté ses fruits. François Guillot a passé son temps à errer entre la Belgique et le nord de la France. Le comble, c'est qu'il est interdit de séjour dans la Troisième République. Il a été expulsé sur base d'un arrêté ministériel suite à son incarcération à la prison de Loos, près de Lille, du 20 décembre 1880 au 27 août 1881. Alphonse, notre juge d'instruction, se renseigne sur le gaillard. Il correspond par courrier avec le procureur de la République à Lille. Et ce dernier a une information capitale à lui communiquer. En prison, François Guillot a déclaré à un autre détenu qu'il devait récupérer des vêtements déposés en gage à Jemap. Tiens donc, voilà une piste très sérieuse. François Guillot est interrogé par le juge d'instruction au sujet du crime de Jemap. Il conteste les faits, bien qu'il ressemble beaucoup à ce déserteur français ayant déposé des vêtements en gage chez la victime. D'ailleurs, certains témoins n'ont aucun doute, c'est lui. Il est inculpé d'assassinat et de vol avec effraction. À la fin du mois, le juge d'instruction auditionne un musicien. Quelques jours avant le crime de Jemap, le vendredi 7 octobre, ce musicien se trouvait dans un estaminet près du parc de Mons. Il y avait là un sergent-major, des hommes d'affaires, des artistes. Le musicien se souvient d'un homme qu'il qualifie d'ouvrier proprement habillé. Il portait un veston gris, une casquette, des bottines à élastique et à grosses semelles. Il avait une taille moyenne, des cheveux blonds châtains, une moustache blonde. Son dos était un peu voûté. Il devait être âgé d'une trentaine d'années. Le témoin se souvient que cet homme a eu une conversation avec un Parisien qui travaillait dans la finance. L'individu lui aurait dit « Je n'ai pas d'argent en ce moment pour faire des affaires avec vous, mais je pourrais aller en chercher chez une vieille lingère de Jemap. » Le juge d'instruction confronte le musicien à François Guillot. Et là, le musicien n'a aucun doute. C'est lui, oui, c'est bien lui. François Guillot conteste avoir dit à un Parisien qu'une dame de Jemap lui devait de l'argent. Il s'énerve devant le juge d'instruction. Enfin, mais prouvez-moi que j'ai prononcé telle parole ! De plus, il prétend qu'il se trouvait à Valenciennes la nuit du crime. Nous sommes le 1er février 1882. François traîne sa misère sous le préau de la prison de Mons quand son attention est attirée par un autre détenu qui pleure. Il s'appelle Émile Ledieu. « Pourquoi pleures-tu, camarade ?» demande François. « Je passe en cour d'assises dans 2 jours. »« Ah bon, et quel crime as-tu commis ?» poursuit François. « J'ai tué ma maîtresse. »« Eh bien, moi, je suis inculpé d'avoir tué un homme et une femme, mais je suis innocent. »«
Un homme et une femme ?»
Mais vous avez bien entendu, un homme et une femme. 2 jours plus tard, Émile Ledieu est condamné à mort par la cour d'assises du Hainaut pour l'assassinat de sa maîtresse. En attendant d'être transféré à la prison de Louvain, il erre comme un fantôme sous le préau de la prison de Mons. Il aperçoit François, mais il ne peut pas lui parler. Il rédige un billet sur lequel il l'informe de la décision de la cour. François lui répond en lui envoyant une copie de son mandat d'arrêt. Il a annoté «
Je suis voleur de profession. J'ai sur la conscience 5 vols avec escalade en Belgique et 7 vols avec effraction en France. Pour les crimes, je suis innocent. Le lendemain, Émile fait parvenir 14 centimes à François pour qu'il puisse acheter du tabac. François envoie un billet pour le remercier. Il écrit « Je crois pouvoir te faire confiance. Comment as-tu tué ta maîtresse ?» Émile lui répond qu'il l'a frappée à la tête avec une hache. Selon le médecin légiste, il lui a porté 15 coups. François lui écrit « Puisque tu as tué ta maîtresse à coups de hache, je puis te dire que c'est aussi à coups de hache que j'ai tué la femme de Jemap. » Il demande à Émile de ne pas garder les billets. Malheureusement pour lui, le condamné à mort les remet à son avocat et lui demande de les transmettre au procureur du roi. Cela l'aidera peut-être à échapper à la guillotine. Et sa vie est négociée en haut lieu. François Guillot vient d'avouer par écrit qu'il est l'assassin de la veuve d'Elsard. Mais rappelez-vous, François a dit à son codétenu qu'il avait aussi tué un homme. Le juge d'instruction de Mons n'a pas été informé d'un crime non élucidé concernant un homme dans son arrondissement. Ce ne sont que des femmes âgées, des veuves. Il demande à Émile Ledieu de continuer à correspondre avec François Guillot. Il veut lui tendre un piège. Les deux détenus s'échangent des messages sous les regards complices des gardiens de prison. Et François tombe dans le guet-apens. Il avoue un autre meurtre, commis en France. Dans un billet, il avoue qu'il a tué un homme d'un coup de revolver. Il écrit « J'étais en train de fouiller pour voler. J'allais ouvrir le secrétaire quand j'ai entendu la fille de la victime marcher à l'étage. Je regrette du fond de mon cœur ce coup de revolver, mais la balle a été dans la tête, mon cher ami. L'argent ? Non. Je n'ai pas eu le temps. J'ai volé seulement ses chemises, des foulards, des tricots, des bottines et des chaussettes, un pantalon et quelques francs. Émile Ledieu lui demande si les deux affaires avaient eu lieu le même jour. Et François répond. Tu me demandes si je les ai tués tous les deux le même jour ? Non, puisque l'homme est un Français et la femme est de Jemap. Est-ce que tu crois que je suis un boucher établi dans une grande ville pour tuer une vache et un taureau le même jour ? Enfin, dans un autre billet, François Guillot indique qu'il aimerait travailler en prison afin de pouvoir se procurer un poinçon. Avec cet outil piquant, il compte bien régler le compte du juge d'instruction. Alphonse de Bucher n'est pas impressionné, il en a vu d'autres. Il informe le procureur du roi du meurtre commis en France et ce dernier prend contact avec les parquets français. Dans la République voisine, François Guillot n'est pas un inconnu. Il s'est marié à une Française et a longtemps vécu dans le village de Ferrières-la-Grande, une municipalité située au sud de Maubeuge, dans le département du Nord. Il a quitté sa femme il y a quelques années. Or, un crime s'est déroulé dans ce village, la nuit du 20 au 21 décembre 1881, et l'assassin n'a jamais été identifié. Louis Lantier tenait une épicerie et un estaminet à Ferrières-la-Grande. Il vivait avec sa fille, Juliette, qui l'aidait dans son commerce. Il vendait aussi des vêtements. Une domestique vivait également avec eux. Le 20 décembre 1881, au soir, Juliette ne se sentait pas bien. Elle a demandé à sa domestique de lui préparer une tisane. La jeune femme est allée au rez-de-chaussée et s'est rendue à la cuisine. Elle est passée devant la chambre de Louis. La porte était entrouverte. Louis émettait des râles. Il semblait souffrir. « Il y a un problème, monsieur ?» Louis a poussé un cri, comme un appel à l'aide. La domestique a couru à l'étage pour informer Juliette que son papa semblait aller mal. Les deux femmes sont entrées dans la chambre de Louis qui se tenait debout près de son lit. Sa figure et sa chemise étaient couvertes de sang. Juliette s'était précipitée vers lui. « Mais enfin, papa, qu'est-ce qui t'arrive ?» Le vieil homme a déclaré qu'il s'est réveillé à cause d'une sensation de douleur. Il croyait un simple saignement de nez, mais le sang sortait de son front et pas de son nez. Le vieil homme était paniqué. Il répétait « Mon revolver ! Où est mon revolver ?» Louis Lantier avait placé une arme à feu sur sa table de nuit car un voleur était entré dans son commerce une nuit du début du mois de décembre 1881. Et ce revolver avait disparu. Le médecin du village a été appelé en urgence. La police a été avisée des faits, tout comme le parquet d'Avesnes-sur-Helpe, qui a ouvert une instruction pour une tentative d'assassinat. Une balle s'était logée dans le crâne de Louis. Elle était entrée par le front, entre ses sourcils. Ironie du sort, il a été blessé par l'arme qu'il détenait pour se protéger. Il a succombé à sa blessure quelques jours plus tard. Alphonse de Buchère lit la note envoyée par le procureur de la République. Il lit qu'un carreau d'une vitre de l'estaminet avait été cassé afin d'entrer dans la boutique. Tiens, tiens. Et qu'on pouvait y passer un bras pour ouvrir la porte. Bon, cela vous fait bien penser à quelque chose, non ? Les comptoirs de la boutique avaient été entièrement vidés. Le voleur avait emporté une somme de 12 francs, ainsi que quelques vêtements. Parmi ces vêtements volés, il y avait le pantalon préféré de Louis, confectionné sur mesure par un tailleur de Maubeuge. Louis le mettait généralement le dimanche. Juliette Lantier a donné des détails importants aux enquêteurs. Le premier, le tailleur y avait attaché des boutons sur lesquels il était écrit « Au pauvre diable ». Deuxième détail, le voleur avait emporté une paire de souliers appartenant à Louis, lequel avait la particularité d'avoir un pied plus grand que l'autre. Les tailles étaient légèrement différentes. Enfin, le voleur a aussi emporté un grand morceau de tissu à carreaux blancs et bleus. Or, il est indiqué dans un rapport de la police française que, la nuit du crime, vers 2 h du matin, une femme avait aperçu près de la boutique Lantier un individu qui portait un grand sac à carreaux blancs et bleus. L'homme avait une allure suspecte, mais cette dame fut incapable de le décrire. L'enquête française était au point mort. Elle vient d'être relancée avec les aveux écrits de François Guillot. Les autorités judiciaires belges et françaises vont pouvoir collaborer pour coincer un voleur sans frontières devenu assassin. Alphonse de Buchère ne perd pas de temps. Fort de ces informations, il ordonne au directeur de la prison d'inspecter les vêtements de François Guillot. Bingo ! Sur les boutons d'un pantalon, il est inscrit « Au pauvre diable ». Il s'agit donc bien du pantalon volé chez Louis Lantier. Quant à la paire de chaussures, on ne la retrouve pas. Le bout de tissu à carreaux blancs et bleus n'est pas là non plus. Le juge d'instruction interroge le détenu. « Où avez-vous trouvé ce pantalon ?»«
Ah, je l'ai acheté à des colporteurs dans un estaminet. »«
Ah bon, et où ça ?»«
Ah, bah, je ne sais plus, » répond François.
« Et à qui ?»«
Bah, je ne sais pas, je ne les connais pas. »
Ainsi, François Guillot ne veut pas collaborer. Le 25 février 1882, il est à nouveau interrogé par le juge d'instruction. Il avoue avoir commis des vols en France. Le reste, il conteste et use de son droit au silence. Il reconnaît cependant qu'il était à Mons du 1er au 7 octobre. Il prétend qu'il détenait alors entre 60 et 70 francs. Cet argent lui avait été remis à sa sortie de prison de Loos. François dit être allé ensuite dans l'Oise et dans le Pas-de-Calais pour commettre des vols. Il voyageait beaucoup, dormait dans la paille, jouait de l'accordéon. Il dit être revenu en Belgique au mois de novembre. Le juge d'instruction apprend que, le lendemain du crime commis en France, François Guillot s'est rendu dans un cabaret à Jemappes. Selon la patronne, il avait un sac à carreaux blancs et bleus, rempli de vêtements et de chaussures à vendre. Il n'a rien vendu et n'est plus retourné dans cet estaminet. Le juge confronte le détenu au témoin qui reconnaît François Guillot. Enfin, il apprend que l'inculpé fréquentait aussi les maisons closes et qu'il portait de beaux vêtements et des bijoux quand il partait acheter les charmes des jeunes femmes. Un mois plus tard, Juliette Lantier se présente au palais de justice de Mons. Le juge d'instruction lui présente des vêtements que portait François le jour de son arrestation, le 19 janvier.
Je reconnais le pantalon comme étant l'un de ceux qui ont été volés chez mon père, déclare Juliette. On lui présente François Guillot, qu'elle connaît bien car il a été son voisin du temps où il était marié avec une citoyenne de Ferrières-la-Grande. Le 25 avril, François est emmené par les gendarmes au cabinet du juge d'instruction. Alphonse de Buchère lui montre les billets, signés de sa main et envoyés à Émile Ledieu, qui l'appelle « son cher ami » ou encore « son cher compagnon d'infortune ». François Guillot continue à nier les faits. « Je ne connais aucun de ces billets. Je ne sais pas de qui ils émanent. La signature avec mon nom qui se trouve sur certains de ces billets n'a pas été faite par moi. J'ai jeté au préau mon mandat d'arrêt et diverses pièces de procédure qui m'ont été signifiées. Je ne sais pas ce que sont devenus ces documents. » Le juge d'instruction insiste. Il pousse François dans les cordes. Ce dernier finit par avouer qu'il est bien l'auteur de certains de ses billets dans lesquels il fait des aveux, mais c'était pour passer le temps en prison, dit-il. « Enfin, mais je vous répète que je suis innocent !»« Alors, comment savez-vous que le meurtre de Jemappe a été commis à coups de hache, si vous êtes étranger au fait ?» demande le juge d'instruction.
« Ah ben, c'est le peintre qui me l'a dit. Je ne connais ni son nom, ni son lieu de résidence. »
Le juge lui présente la hache.
Enfin, j'ai jamais eu cette hache en main. Vous serez un jour bien étonné d'apprendre qui a commis ce crime.
Eh bien, dites-le nous. Il en va de votre intérêt, insiste Alphonse.
Oh, vous ne saurez rien de moi. Pour moi, cela reviendra toujours au même.
François rentre à la prison. Malgré des preuves accablantes, il persiste à nier le crime de Jemappe.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'Augustine Cantigno, veuve d'Elsard, assassinée à coups de hache chez elle la nuit du 14 au 15 octobre 1881. François Guillot, un vagabond détenu à la prison de Mons, a avoué le crime dans des billets écrits de sa main et envoyés à un codétenu. Dans ses lettres, il n'avoue pas un assassinat, mais deux assassinats. Il aurait aussi tué un homme à Ferrières-la-Grande, une municipalité située dans la banlieue de Maubeuge, en France. Inculpé de deux crimes et de nombreux vols, il conteste les faits. Mais le juge d'instruction ne lâche pas l'affaire. Il le pousse à faire des aveux. Le 15 mai, François est auditionné une nouvelle fois par le juge d'instruction. Il conteste l'assassinat de Jemappe, mais reconnaît celui de Ferrières-la-Grande. Il explique comment il est entré dans la maison du commerçant, décédé à l'âge de 54 ans. Ce qu'il déclare colle aux indices découverts par les enquêteurs français sur la scène de crime.
Bon, je suis entré dans la maison par la fenêtre, dont j'avais démastiqué une partie du carreau, en exerçant une pression sur le coin à l'aide d'un morceau de fer. Une fois entré dans la maison, j'ai pris des marchandises, puis j'ai aussi emporté de l'argent qui se trouvait dans le tiroir du comptoir de la chambre, à côté de la boutique où couchait l'entier. La chambre était encore éclairée, alors l'entier s'est réveillé, j'ai saisi le revolver qui se trouvait sur un meuble et puis j'ai tiré un coup sur l'entier. Puis je me suis sauvé en voyant le sang s'échapper de sa blessure au front.
François prétend qu'il n'a fouillé aucun meuble, aucun autre meuble que le comptoir. Il dit avoir fait le coup tout seul et avoir vendu une partie des habits volés en France et en Belgique. François Guillot a donc erré entre Jemappe, où l'avait élu domicile, et le nord de la France, pays qu'il avait expulsé. Il était donc en rupture de ban, ne respectant pas l'interdiction de territoire. Entre octobre 1881 et janvier 1882, il aurait donc commis deux homicides et plusieurs vols. On raconte qu'il serait le chef d'une bande de malfaiteurs agissant dans les deux pays, avec un point de ralliement le long de la frontière. François était donc libre quand les vieilles dames ont été assassinées à Mons et Trivière. Il conteste être l'auteur de ces crimes, mais il déclare connaître les auteurs. « Eh bien, donnez-moi leurs identités alors, » insiste le juge.
« Ah non, un bon soldat ne trahit jamais ses camarades. »
Aucun élément ne permet de relier François aux deux autres crimes. Il n'est donc inculpé que pour les crimes de Jemappe et de Ferrières-la-Grande. Le 13 juillet 1882, François Guillot demande à être entendu par Alphonse de Buchère. Il est prêt à lui dire toute la vérité, enfin. Et le juge l'écoute avec attention.
Bon, bien voilà, c'est moi qui ai commis le crime de Jemap. J'étais tout seul. Je suis arrivé à Jemap au cours de la nuit. Je ne sais plus à quelle heure. Je venais de Valenciennes. En arrivant, j'ai eu l'idée d'aller chez Augustine Cantigno et j'y suis allé.
Il raconte qu'il y avait un carreau pas bien scellé sur la porte. Il a réussi à détacher ce carreau avec ses mains. Il a déposé le bout de verre, comme avait pu le constater le juge le lendemain du crime. Il a pu ainsi passer sa main, ouvrir la porte sur laquelle la clé se trouvait et entrer dans la boutique. Il raconte.
J'ai entendu Augustine prononcer quelques paroles et j'ai compris qu'elle disait « Sale bête, je vais te mettre à la porte ». Elle pensait que le léger bruit que j'avais causé était l'œuvre des chats.
François Guillot est resté quelques minutes sans bouger, le temps que la vieille dame se rendorme. Ensuite, il s'est saisi de la hache attachée au mur.
Je suis allé dans la chambre et j'ai tué à coups de hache Augustine Cantigno. Voilà. Elle n'a fait aucun mouvement.
François Guillot raconte son crime sans manifester la moindre empathie pour la victime. Il prétend que ce crime n'était pas prémédité, qu'il a eu l'idée de la tuer en entrant dans la maison. Il raconte encore.
Dès que le crime a été commis, j'ai fouillé les armoires de la chambre à coucher et les tiroirs de la boutique. J'ai pas trouvé d'argent. J'ai fouillé encore dans les poches d'une blouse qui se trouvait sur une chaise à côté du lit. J'y ai trouvé 16 francs. Je suis ensuite parti vers Binche pour prendre le train de Charleroi.
Il dit aussi avoir emporté une blouse qu'il a vendue le lendemain dans une boutique de fripes à Charleroi. François Guillot avoue qu'il a volé des bijoux, des vêtements, des bouteilles de vin, de l'argent et de nombreuses montres dans des habitations de la région, en France et en Belgique. À chaque reprise, il a usé du même mode opératoire. Il a brisé une vitre pour ouvrir une porte. Il donne des détails.
Au moment de mon arrestation, j'avais sur moi 78 chaînes de montres, 12 ou 15 bagues et 2 montres. Pendant les quelques instants où l'on m'a laissé seul dans le bureau de la police de Jemap, je suis parvenu à ranger les différentes chaînes sur mon ventre. Je les ai fait tenir en serrant mon pantalon. Les bagues et les montres, je les ai cachées dans un porte-monnaie que j'ai glissé dans ma chaussette. J'avais plus en poche qu'un petit canif et une clé de montre.
Mais quelle audace! Mais surtout, quelle imprudence de laisser un tel homme sans surveillance! François Guillot est en aveu de 2 crimes et de nombreux vols commis en Belgique et en France. À la suite d'un accord entre les 2 pays, la cour d'assises du Hainaut est saisie pour juger les faits commis de part et d'autre de la frontière. Le procès débute en décembre 1882 au palais de justice de Mons. Mais la foule se bouscule pour voir l'homme qui a assassiné la fripière de Jemap. Comme l'accusé est en aveu, ce procès est peu suivi par les médias de l'époque. On sait seulement que François Guillot s'est rétracté au sujet du crime commis à Ferrières-la-Grande. Il déclare que c'est un complice qui a fait le coup. Et comme un bon soldat n'abandonne pas ses camarades, il refuse de donner son identité. Il ne conteste pas l'assassinat de cette pauvre Augustine. Dans son réquisitoire, l'avocat général déclare que François Guillot mène depuis longtemps une existence de vagabond, ne vivant que de rapines et cherchant dans le vol les moyens de satisfaire ses instincts de parasite et de débauché. Debout, il s'adresse aux jurés et insiste sur la perversité et l'audace exceptionnelle de l'accusé et ses nombreux antécédents judiciaires des 2 côtés de la frontière. La défense, elle, plaide l'acquittement pour le crime commis en France. Après 2 jours de procès et l'audition d'une centaine de témoins, les jurés prononcent le verdict, à savoir la culpabilité de François Guillot pour 2 assassinats et 8 vols commis à Mons, Maubeuge et La Louvière. François est condamné à la peine de mort. Il bénéficie d'une grâce royale. Sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Ainsi s'est arrêté le périple d'un voleur devenu assassin, dont la dernière parole devant la cour fut de dire « En prison, la ratatouille est bonne ».
Voilà pour cette affaire criminelle terrible que j'ai le grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui en collaboration avec la plume de Cédric Kettler.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.